Conte de Guillaume Vadé. Ceux qui plaît aux dames. Or, maintenant que le beau dieu du jour des Africains va brûlant la contrée, qu'un cercle étroit chez nous borne son tour et que l'hiver allonge la soirée, après souper, pour vous désennuyer, mes chers amis, écoutez une histoire touchant un pauvre et noble chevalier dont l'aventure est digne de mémoire. Son nom était messire Jean Robert, lequel vivait sous le roi Dagobert. Il voyagea de vers Rome la Sainte, qui surpassait la Rome des Césars. Il rapportait de son auguste enceinte, non des lauriers cueillis au champ de Mars, mais des agnus avec des indulgences et des pardons et de belles dispenses. Mon chevalier en était tout chargé, d'argent fort peu, car, dans ces temps de crise, tout paladin fut très mal partagé. L'argent n'allait qu'aux mains des gens d'église. Sire Robert possédait pour tout bien sa vieille armure, un cheval et son chien. Mais il avait reçu pour apanage les dons brillants de la fleur du bel âge, force d'Hercule et grâce d'Adonis, dons fortunés compris en tout pays. Comme il était assez près de Lutèce, au coin d'un bois qui borde Charenton, il aperçut la fringante Marton dont un ruban nouait la blonde tresse. Sa taille est leste et son petit jupon laisse entrevoir sa jambe blanche et fine. Robert avance, il lui trouve une mine qui tenterait les saints du paradis. Un beau bouquet de roses et de lys est au milieu de deux pommes d'albâtre qu'on ne voit point sans en être idolâtre. Et de son teint, la fleur et l'incarnat de son bouquet auraient terni l'éclat. Pour dire tout, cette jeune merveille à son giron portait une corbeille et s'en allait avec tous ses attraits vendre au marché du beurre et des œufs frais. Sire Robert, ému de convoitise, descend d'un saut, la colle avec franchise. « J'ai 20 écus, dit-il, dans ma valise, c'est tout mon bien. Prenez encore mon cœur, tout est à vous. »« C'est pour moi trop d'honneur, lui dit Marton. Robert presse la belle, la fait tomber et tombe aussitôt qu'elle, et la renverse et casse tous ses œufs. Comme il cassait, son cheval ombrageux, épouvanté de la fière bataille, au loin s'écarte et fuit dans la broussaille. De Saint-Denis, un moine survenant monte dessus et trotte à son couvent. Enfin, Marton, rajustant sa coiffure, dit à Robert « Où sont mes 20 écus ?» Le chevalier, tout pantois et confus, cherchant en vain sa bourse et sa monture, veut s'excuser. Nulle excuse ne sert, Marton ne peut digérer son injure et va porter sa plainte à Dagobert. « Un chevalier, dit-elle, m'a pillé et violé, et surtout, point payé. » Le sage prince à Marton répondit, « C'est du viol que je vois qu'il s'agit. Allez plaider devant ma femme Berthe. En tel procès, la reine est très experte. Bénignement, elle vous recevra, et sans délai, justice se fera. » Marton s'incline et va droit à la reine. Berthe était douce, affable, accorte, humaine, mais elle avait de la sévérité sur le grand point de la pudicité. Elle assembla son conseil de dévotes. Le chevalier, sans éperon, sans bottes, la tête nue et le regard baissé, leur avoua ce qui s'était passé. Que vers Charonne il fut tenté du diable, qu'il succomba, qu'il se sentait coupable, qu'il en avait un très pieux remords. Puis il reçut sa sentence de mort. Robert était si beau, si plein de charme, si bien tourné, si frais et si vermeil, qu'en le jugeant, la reine et son conseil lorgnaient Robert et répandaient des larmes. Marton, de loin, dans un coin, soupira. Dans tous les cœurs, la pitié trouva place. Berthe au conseil, alors, remémora qu'au chevalier on pouvait faire grâce et qu'il vivrait pour peu qu'il eût d'esprit. Car vous savez que notre loi prescrit de pardonner à qui pourra nous dire ce que la femme en tous les temps désire. Bien entendu qu'il explique le cas très nettement et ne nous fâche pas. La chose étant au conseil exposée, fut à Robert aussitôt proposée. La bonne Berthe, afin de le sauver, lui concéda 8 jours pour y rêver. Il fit serment aux genoux de la reine de comparaître au bout de la 8aine, remercia du décret lénitif, prit congé d'elle et partit tout pensif. Comment nommer, disait-il en lui-même, très nettement, ce que toute femme aime sans la fâcher ? La reine et son sénat ont aggravé mon trop piteux état. J'aimerais mieux, puisqu'il faut que je meure, que sans délai l'on m'eût pendu sur l'heure. » Dans son chemin, dès que Robert trouvait ou femme ou fille, il priait la passante de lui conter ce que plus elle aimait. Toutes faisaient réponse différente, toutes mentaient, nul n'allait au fait. Sire Robert au diable se donnait. Déjà, cette fois, l'astre qui nous éclaire avait doré les bords de l'hémisphère quand, sur un pré, sous des ombrages frais, il vit de loin 20 beautés ravissantes dansant en rond. Leurs robes voltigeantes étaient à peine un voile à leurs attraits. Le doux zéphyr, en se jouant auprès, laissait flotter leurs tresses ondoyantes. Sur l'herbe tendre, elles formaient leurs pas, rasant la terre et ne la touchant pas. Robert approche et, du moins il espère, les consulter sur sa maudite affaire. En un moment, tout disparaît, tout fuit. Le jour baissait, à peine il était nuit. Il ne vit plus qu'une vieille édentée au teint de suie, à la taille écourtée, pliant en deux, s'appuyant d'un bâton. Son nez pointu touche à son court menton, d'un rouge brun sa paupière est bordée, quelques crins blancs couvrent son noir chignon. Un vieux tapis qui lui sert de jupon tombe à moitié sur sa cuisse ridée. Elle le fit peur au brave chevalier. Elle l'accoste et d'un ton familier lui dit « Mon fils, je vois à votre mine que vous avez un chagrin qui vous mine. Apprenez-moi vos tribulations. Nous souffrons tous, mais parler nous soulage. Il est encore des consolations. J'ai beaucoup vu. Le sens vient avec l'âge. Aux malheureux, quelquefois, mes avis ont fait du bien quand on les a suivis. » Le chevalier lui dit « Hélas, ma bonne, je vais cherchant des conseils, mais en vain. Mon heure arrive, et je dois en personne, sans plus attendre, être pendu demain, si je ne dis à la reine, à ses femmes, sans les fâcher, ce qui plaît tant aux dames. » La vieille alors lui dit « Ne craignez rien. Puisque vers moi le bon Dieu vous envoie, croyez, mon fils, que c'est pour votre bien. De vers la cour, cheminez avec joie. Allons ensemble, et je vous apprendrai ce grand secret de vous tant désiré. Mais jurez-moi, comme devant la vie, vous serez juste, et que de vous j'aurai ce qui me plaît et qui fait mon envie. L'ingratitude est un crime odieux. Faites serment, jurez par mes beaux yeux que vous ferez tout ce que je désire. » Le bon Robert le jura non sans rire. « Ne riez point, rien n'est plus sérieux, » reprit la vieille, et les voilà tous deux qui, côte à côte, arrivent en présence de Reine Berthe et de la cour de France. Un continent, le conseil assemblé, la reine assise et Robert appelé. « Je sais, dit-il, votre secret, mesdames. Ce qui vous plaît en tout lieu, en tout temps, n'est pas toujours d'avoir beaucoup d'amants. Mais, fille ou femme, ou veuve, ou laide, ou belle, ou pauvre, ou riche, ou galante, ou cruelle, la nuit, le jour, veut être, à mon avis, tant qu'elle peut la maîtresse au logis. Il faut toujours que la femme commande. C'est là son goût, si j'ai tort, qu'on me pende. » Comme il parlait, tout le conseil conclut qu'il parlait juste et qu'il touchait au but. Robert Absous baisait la main de Berthe. Quand, de haillons et de fanges couvertes, au pied du trône, on vit notre cendant criant justice et la presse fendant. On lui fait place et voici sa harangue. Ô reine Berthe, ô beauté dont la langue ne prononça jamais que vérité, vous dont l'esprit connaît toute équité, vous dont le cœur s'ouvre à la bienfaisance. Ce paladin ne doit qu'à ma science votre secret. Il ne vit que par moi. Il a juré mes beaux yeux et sa foi que j'obtiendrai de lui ce que j'espère. Vous êtes juste, et j'attends mon salaire. » Il est très vrai, dit Robert, et jamais on ne me vit oublier les bienfaits. Mes 20 écus, mon cheval, mon bagage et mon armure étaient tout mon partage. Un moine noir, à part dévotion, saisit le tout quand j'asseyais Marton. Je n'ai plus rien, et malgré ma justice, je ne saurais payer ma bienfaitrice. » La reine dit : « Tout vous sera rendu. On punira votre voleur tondu. Votre fortune en 3 parts divisée fera 3 lots justement compensés. Les 20 écus à Marton la lésée sont dus de droit et pour ses œufs cassés. La bonne vieille aura votre monture et vous, Robert, vous aurez votre armure. » La vieille dit : « Rien n'est plus généreux, mais ce n'est pas son cheval que je veux. Rien de Robert ne me plaît que lui-même. C'est sa valeur et ses grâces que j'aime. Je veux régner sur son cœur amoureux. De ce trésor ma tendresse est jalouse. Entre mes bras, Robert doit vivre heureux. Dès cette nuit, je prétends qu'il m'épouse. » À ce discours que l'on n'attendait pas, Robert glacé laisse tomber ses bras. Puis, fixement, contemplant la figure et les haillons de notre créature, dans son horreur, il recula 3 pas, signa son front et, d'un ton lamentable, il s'écriait : « Ai-je donc mérité ce ridicule et cette indignité ? J'aimerais mieux que votre majesté me fiançât à la mère du diable. La vieille est folle, elle a perdu l'esprit. » Lors, tendrement, notre sendant reprit : « Vous le voyez, ô reine, il me méprise, il est ingrat, les hommes le sont tous. Mais je vaincrai ses injustes dégoûts. De sa beauté j'ai l'âme trop éprise, je l'aime trop pour qu'il ne m'aime pas. Le cœur fait tout. J'avoue avec franchise que je commence à perdre mes appas. Mais j'en serai plus tendre et plus fidèle. On en vaut mieux, on orne son esprit, on sait penser. Et Salomon a dit que femme sage est plus que femme belle. Je suis bien pauvre, est-ce à si grand malheur ? La pauvreté n'est point un déshonneur. N'est-on content que sur un lit d'ivoire ? Et vous, madame, en ce palais de gloire, quand vous couchez côte à côte du roi, dormez-vous mieux ? Aimez-vous mieux que moi ? De Philémon, vous connaissez l'histoire. Amant aimé dans le coin d'un taudis, jusqu'à 100 ans, il caressa Baucy. Les noirs chagrins, enfants de la vieillesse, n'habitent point sous nos rustiques toits. Le vice fuit où n'est point la mollesse. Nous servons Dieu, nous égalons les rois. Nous soutenons l'honneur de nos provinces. Nous vous faisons de vigoureux soldats. Et croyez-moi, pour peupler vos états, les pauvres gens valent mieux que vos princes. Que si le ciel à mes chastes désirs n'accorde pas le bonheur d'être mère, les fleurs du moins sans les fruits peuvent plaire. On me verra jusqu'à mon dernier jour cueillir les fleurs de l'arbre de l'amour. » La décrépite, en parlant de la sorte, charma le cœur des dames du palais. On adjugea Robert à ses attraits. De son serment, la sainteté l'emporte sur son dégoût. La dame encore voulut être à cheval entre ses bras menés à sa chaumière, où ce noble hyménée doit s'achever dans la même journée, et tout fut fait comme à la vieille il plut. Le chevalier sur son cheval remonte, prend tristement sa femme entre ses bras, saisi d'horreur et rougissant de honte, tente 100 fois de la jeter à bas, de la noyer, mais il ne le fit pas. Tant des devoirs de la chevalerie, la loi sacrée était alors chérie. Sa tendre épouse, entretemps avec lui, lui rappelait les exploits de sa race, lui racontait comment le grand Clovis assassina 3 rois de ses amis, comment du ciel il mérita la grâce. Elle avait vu le beau pigeon béni du haut des cieux apportant à Rémy l'ampoule sainte et le céleste crème, dont ce grand roi fut oint dans son baptême. Elle mêlait à ses narrations des sentiments et des réflexions, des traits d'esprit et de morale pure, qui, sans couper le fil de l'aventure, faisait penser l'auditeur attentif et l'instruisait, mais sans l'air instructif. Le bon Robert, à toutes ces merveilles, le cœur ému, prêtait ses deux oreilles, tout délecté quand sa femme parlait, prête à mourir quand il la regardait. L'étrange couple arrive à la chaumière que possédait l'affreuse aventurière. Elle se trousse et, de sa sale main, de son époux arrange le festin. Frugal repas fait pour ce premier âge, plus célébré qu'imité par le sage. Deux ais pourris sur trois pieds inégaux formaient la table où les époux soupèrent. À peine assis sur deux mains ce tréteau, du triste époux les regards se baissèrent. La décrépite égaya le repas par des propos plaisants et délicats, par ces bons mots qui piquent et qu'on aime, si naturels que l'on croirait soi-même les avoir dits. Robert fut si content qu'il en sourit et qu'il crut un moment qu'elle pouvait lui paraître moins laide. Elle voulut, quand le souper finit, que son époux vint avec elle au lit. Le désespoir, la fureur le possèdent à cette crise. Il souhaite la mort. Mais il se couche. Il se fait cet effort. Il l'a promis. Le mal est sans remède. Ce n'étaient point deux sales demi-draps percés de trous et rongés par les rats, mal étendus sur de vieilles javelles, mal recousus encore par des ficelles qui révoltaient le guerrier malheureux. Du saint hymen, les devoirs rigoureux s'offraient à lui sous un aspect horrible. Le ciel, dit-il, voudrait-il l'impossible? À Rome, on dit que la grâce d'en haut donne à la fois le vouloir et le faire. La grâce et moi, nous sommes en défaut. Par son esprit, ma femme a de quoi plaire, son cœur est bon. Mais dans le grand conflit, peut-on jouir du cœur ou de l'esprit? Ainsi parlant, le bon Robert se jette, froid comme glace, au bord de sa couchette, et pour cacher son cruel déplaisir, il feint qu'il dort. Mais il ne peut dormir. La vieille, alors, lui dit d'une voix tendre en le pinçant, « Ah, Robert, dormez-vous, charmant ingrat, cher et cruel époux, je suis rendu, hâtez-vous de vous rendre. De ma pudeur, les timides accents sont subjugués par la voix de mes sens. Régnez sur eux ainsi que sur mon âme. Je meurs, ciel, à quoi réduis-tu mon naturel qui combat ma vertu? Je me dissous, je brûle, je me pâme. Ah, le plaisir m'enivre malgré moi, je n'en peux plus, faut-il mourir sans toi? Va, je le mets dessus ta conscience. » Robert avait un fond de complaisance et de candeur et de religion. De son épouse, il eut compassion. « Hélas, dit-il, j'aurais voulu, madame, par mon ardeur égaler votre flamme, mais que pourrais-je ? Allez, vous pourrez tout, reprit la vieille. Il n'est rien à votre âge dont un grand cœur enfin ne vienne à bout avec des soins, de l'art et du courage. Songez combien les dames de la cour célébreront ce prodige d'amour. Je vous parais peut-être dégoûtante, un peu ridée et même un peu puante. Cela n'est rien pour des héros bien nés. Fermez les yeux et bouchez-vous le nez. » Le chevalier, amoureux de la gloire, voulut enfin tenter cette victoire. Il obéit, et ce pigant d'honneur, n'écoutant plus que sa rare valeur aidée du ciel, trouvant dans sa jeunesse ce qui tient lieu de beauté, de tendresse, fermant les yeux, se mit à son devoir. « C'en est assez, lui dit sa tendre épouse. J'ai vu de vous ce que j'ai voulu voir. Sur votre cœur, j'ai connu mon pouvoir. De ce pouvoir, ma gloire était jalouse. J'avais raison. Convenez-en, mon fils, femme toujours et maîtresse au logis. Ce qu'à jamais, Robert, je vous demande, c'est qu'à mes soins vous vous laissiez guider. Obéissez. Mon amour vous commande d'ouvrir les yeux et de me regarder. » Robert regarde. Il voit, à la lumière de 100 flambeaux sur 20 lustres placés dans un palais qui fut cette chaumière, sous des rideaux de perles rehaussés, une beauté dont le pinceau d'appel ou de Venlo, ni le ciseau fidèle du bon Pigalle, le moine ou Phidias, n'aurait jamais imité les appas. C'était Vénus, mais Vénus amoureuse, telle qu'elle est, quand les cheveux épars, les yeux noyés dans sa langueur heureuse, entre ses bras, elle attend le dieu Mars. Tout est à vous, ce palais et moi-même. Jouissez-en, dit-elle à son vainqueur. Vous n'avez point dédaigné la laideur, vous méritez que la beauté vous aime. Or maintenant, j'entends mes auditeurs me demander quelle était cette belle de qui Robert eut les tendres faveurs. Mes chers amis, c'était la fée Urgelle qui, dans son temps, protégea nos guerriers et fit du bien aux pauvres chevaliers. Oh, l'heureux temps que celui de ces fables, des bons démons, des esprits familiers, des farfadets aux mortels secourables. On écoutait tous ces faits admirables dans son château, près d'un large foyer. Le père et l'oncle, et la mère et la fille, et les voisins, et toute la famille, ouvraient l'oreille à monsieur l'aumônier qui leur faisait des contes de sorciers. On a banni les démons et les fées. Sous la raison, les grâces étouffées livrent nos cœurs à l'insipidité. Le raisonné tristement s'accrédite. On court, hélas, après la vérité. Ah, croyez-moi, l'erreur a son mérite.